Ceux qui sont derrière la caméra aussi. Hein.
Potentiellement au monde entier.
Ça met un poids sur les épaules. Hein. Voilà. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui m'écouteront plus tard. C'est toujours pour moi un moment d'émotion quand je suis dans cette église, parce que ça éveille en moi plein de souvenirs. Il y a beaucoup de têtes que je ne connais pas, il y en a que je connais. Et ça me rappelle 25 ans en arrière, j'étais dans l'église de la Boca, responsable de l'église de la Boca, et on était un peu en difficulté à cette époque-là. Et on venait chercher des ressources dans cette église de grâce. Je me souviens de fabuleux moments d'échanges théologiques et pratiques dans la chambre haute au-dessus, des soirées mémorables pour moi, où j'ai beaucoup appris, beaucoup reçu. Après, au fil des années, on a fait des groupes de jeunes avec José Pellegrin, avec des jeunes qui sont maintenant des adultes. Et voilà, on a partagé des moments de liens forts. Il y a eu ensuite les flambeaux, pour les plus vieux, voilà, qui réunissaient les enfants de l'église d'Antibes et d'ici. On a eu des échanges de chair, des partages de pastoral. Et voilà, c'est tout, plein de choses qui remontent à ma mémoire. Et je dois vous demander pardon, parce qu'en tant qu'ancien de l'église d'Antibes, on a laissé au fil du temps, ces relations peuvent s'éloigner. Et on est des églises AEF dans la région, trois églises qui sont toutes proches. Et malheureusement, on a assez peu de relations. Et je trouve ça dommage. Voilà, mais je suis heureux que je puisse être là ce matin, que vous me fassiez confiance. Il y a un TAR qui m'a appelé il y a quelques semaines pour me demander de venir participer à un facilitateur d'une médiation dans cette église. Et hier, on a eu des rencontres pleines de vérité, d'honnêteté avec quelques-uns. Voilà, moi, je ne suis pas formé pour ça, j'ai peu d'expérience, mais on a invité aussi Pierre Barito, qui sera là dimanche prochain, qui partagera le culte avec vous aussi, qui est responsable de nos églises AEF en France et qui a une formation pastorale et de médiation très, très utile et très riche. Voilà, donc je voudrais partager avec vous ce matin un texte dans le livre des Cantiques des Cantiques. C'est un livre qu'on n'a peut-être pas tellement l'habitude d'aborder, qui n'est pas forcément aisé à comprendre, parce qu'il peut être abordé sous différents angles. Et c'est un livre qui est d'abord au premier degré, un formidable chant d'amour qui a inspiré bien des amoureux, même si ça peut paraître vieillot, mais il y a des expressions qui sont très fortes. Parce que je pense qu'en effet, personne mieux que le Créateur peut nous parler d'amour, de cet amour dont on a besoin, qui est un besoin immense dans chacun de nos cœurs, de nos corps, de nos âmes. Et le Créateur peut nous en parler mieux que quiconque. C'est aussi un magnifique poème, je trouve, qui éveille, en tout cas en moi, beaucoup de sentiments moraux, affectifs, spirituels, qu'on ne peut pas enfermer dans une seule explication. C'est pourquoi ce livre, je trouve, laisse la porte ouverte à l'action du Saint-Esprit dans chacun de nos cœurs. Alors, je vous propose de prendre une partie de ce livre dans le chapitre 2, les versets 8 à 17 que je vais lire dans la version second. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici. Il vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au faon des biches. Le voici. Il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Le figuier forme ses premiers fruits, et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, reviens, sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au fond des biches, sur les montagnes qui nous séparent. Dans ce texte, on remarque deux personnages principaux qui s'aiment tendrement et qui dialoguent, que la Bible appelle le bien-aimé et la bien-aimée. Ces deux personnes évoquent, en tout cas pour moi, cette relation intime que Jésus-Christ, notre bien-aimé, pour ceux qui le connaissent, veut avoir avec nous. Ils nous instruisent aussi sur cette relation d'intimité que Jésus-Christ veut avoir avec son Église, qui est sa bien-aimée. Et puis on trouve un jardin plein de fraîcheur, évocateur du premier jardin d'Éden, avec toute la beauté de la création. Mais aussi, il peut nous représenter les différentes saisons d'une année ou d'une vie, et même de la vie d'une Église. On peut laisser libre cours à notre imagination, à interprétation, mais c'est des choses que ça évoque, en tout cas pour moi. Et puis on trouve une maison avec des murs et des barreaux sur lesquels on s'arrêtera un peu plus longuement. Et il y a aussi des animaux, et un qui me parle, c'est le petit renard, dont on parlera aussi. Revenons à notre texte. Dans un premier temps, on s'arrêtera sur la beauté et la puissance des mots et des expressions qui, dans ce texte, traduisent cette relation d'amour entre les deux personnages, entre Jésus-Christ et nous. Dans le verset 4 qu'on n'a pas lu, on entend ce cri du cœur de la bien-aimée qui dit « Sa bannière sur moi, c'est l'amour ». Et un peu plus loin, à la fin de notre texte, au verset 16, elle s'écrit à nouveau « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ». Expression forte qu'on retrouve dans la bouche de l'apôtre Paul quand il s'écrit dans le livre des Galates « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi ». De même, Paul dit un peu plus loin « L'amour de Christ nous étreint ». C'est des mots forts qui nous parlent de ce lien, de cet amour qui est possible entre Dieu et nous, et qu'il désire en tout cas, et que nous désirons, auquel nous aspirons. Et puis on a vu que la bien-aimée, elle connaît la voix de son bien-aimé, comme nous, on connaît la voix du bon berger. Elle l'entend arriver sur les collines, qui vient à sa rencontre, elle vient jusqu'à sa porte. De son côté, le bien-aimé a cette parole merveilleuse au verset 7, il dit « Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille ». On ne l'a pas lu non plus au verset 7. « Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille ». Et j'ai toujours été bouleversé par le Fils de Dieu qui a quitté la gloire du ciel, ce créateur associé à Dieu qui a revêtu une humanité comme un agneau, on a dit tout à l'heure, une humanité dans la plus grande simplicité, de la pauvreté, dans la proximité des plus faibles. Jésus, qui a aimé des êtres aussi vils que moi, jusqu'à donner sa vie sur une croix pour me sauver, pour nous sauver. Mais il est venu avec tellement de tendresse, de délicatesse. Il n'est pas venu comme un ours, comme un éléphant qui s'impose, qui écrase, qui oblige. Mais il est venu comme le fang des biches. Et il nous montre son amour avec puissance, mais il ne nous oblige jamais à l'aimer. Il vient nous chercher, il nous montre son amour et il nous invite à aller à lui. Je suis surpris dans un deuxième temps de m'apercevoir que cette belle relation dont on vient de parler entre le bien-aimé et la bien-aimée semble connaître une crise, un refroidissement du côté de la bien-aimée. On la retrouve enfermée derrière des murs, derrière des barreaux. Elle semble dormir puisqu'elle est invitée à se lever. Elle semble se cacher derrière ces murs. On dirait que la communion est rompue entre elle et son bien-aimé. Elle est dedans, il est dehors, ils sont si proches, mais un mur les sépare. Et je voudrais qu'on se laisse interpeller par cette maison, par ce mur, ces barreaux, derrière lequel est venu le bien-aimé. Cette maison me fait penser à ce chez-soi, notre maison, cette intimité profonde, ce jardin secret où, hélas, souvent, pour de nombreuses raisons, on aime s'enfermer. Ces murs de mon cœur, comme quelqu'un les a appelés, dans lesquels j'interdis parfois à quiconque d'entrer, hélas, même parfois même au Seigneur. Ces murs qui si souvent deviennent une prison où je me crois faussement en sécurité. Jean-Paul Sartre a écrit « L'enfer, c'est les autres ». La Bible nous dit tout à fait l'inverse. Elle nous dit « Ce n'est pas du dehors, par ce qui vient de dehors qu'on est souillé, mais c'est par ce qui sort de nous ». Donc s'enfermer, ce n'est pas une protection contre les autres, contre le mal, ce qui vient de nous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a toujours voulu nous rencontrer à l'intérieur de nos murs. Il nous aime, il veut la lumière, la communion, l'intimité avec nous. C'est tout son désir, tout son cœur est tourné vers là. Et Dieu ne se lasse jamais de venir frapper à notre porte. Dès le jardin d'Éden, Dieu est venu chercher Adam, qui se cachait derrière des feuilles. Et comme Adam, il peut y avoir dans nos vies des... Merci. Merci. Voilà. Voilà, et comme Adam, il peut y avoir dans nos vies des péchés bien cachés dont on n'est pas fier, mais que l'on n'arrive pas à abandonner. Alors on monte des murs, on essaie de se justifier, de minimiser, de les cacher aux autres, bien sûr, et on essaie même de les cacher à Dieu, comme Adam, mais là, ce ne sont que des feuilles qui nous cachent de Dieu, parce qu'il voit tout. Mais ces murs-là, toujours finissent par peser sur notre conscience et nous ôtent la joie du salut, la communion avec Dieu. Et Jésus est dehors. Alors il ne crie pas, il ne casse pas la porte. Il ne fait même pas de reproches, mais il regarde derrière nos murs, derrière nos barreaux. Et il nous parle, il nous dit, je t'aime, lève-toi, sors de ta prison spirituelle dans laquelle tu es, abandonne tes péchés, viens, suis-moi, et tu verras comme la vie est belle quand tu as confessé tes péchés, que tu les as reconnus, que tu as reçu mon pardon. Il est d'autres murs que nous construisons quand il nous arrive d'être blessés par des paroles, par des actes, par de l'indifférence de la part de nos frères et sœurs que nous aimons. Il y a d'autres murs aussi dans lesquels d'autres nous ont enfermés peut-être, par des atteintes à notre identité ou par de profondes injustices ou des accusations fausses. Il y a des murs aussi qui peuvent venir d'une éducation spirituelle légaliste ou laxiste, qui nous ont donné une fausse image de Dieu et qui sont là entre lui et nous. Et tous ces murs finissent par fermer nos cœurs et nos esprits. Alors quand cela nous arrive, au mieux, parce qu'on connaît la parole de Dieu, parce qu'on a entendu la parole de Jésus qui nous dit « Va, va vers ton frère qui t'a fait du mal. » Alors on fait cette démarche une fois, deux fois, et c'est très bien, c'est ce que Dieu nous demande. Mais là, souvent, on le fait en exigeant que les autres reconnaissent leur tort. Et oui, le mal est toujours dehors, il n'est pas dedans. Et on ne voit pas les nôtres. Et rien ne s'arrange dans ce cas-là. Il n'y a pas de solution. Pour les plus introvertis, dont j'étais, le Seigneur m'a guéri en partie, on peut garder nos blessures à l'intérieur de nous. On n'en parle pas. Elles sont dedans. On les garde pour nous. Au mieux, on va peut-être en parler à quelqu'un qui pense comme nous. Au pire, quelqu'un qui peut médire avec nous. Et petit à petit, on est atteint de ce que j'appellerais le syndrome de l'escargot. Quand je montre un escargot à mes petits-enfants, j'aime bien toucher l'antenne, l'œil, et puis il rentre son antenne. Puis si on touche deux, trois fois, il rentre complètement dans sa coquille et il faut du temps pour qu'il en sorte. Et si on en est là spirituellement, alors il y a danger, parce que ce sont des murs d'incompréhension qu'on va construire les uns par rapport aux autres. Et on n'a pas de coquilles, mais on a des maisons et on ferme nos portes. On finit par ne plus inviter. On n'a même plus envie ni la liberté d'aller voir nos frères et sœurs. Et puis, on ferme nos bouches. On ne communique plus. De toute façon, on se dit « ça ne sert à rien puisque je ne suis pas écouté ». Donc on ferme nos bouches. Et puis on peut aller jusqu'à fermer nos oreilles. On ne fait même plus l'effort d'écouter les autres puisque ils ont tort. Et puis, consciemment ou pas, on se dit « mais ils risquent de me remettre en question et j'aime pas ça ». Et si on continue, on va finir par fermer nos cœurs. On s'enferme dans la solitude, dans la tristesse et l'amertume. Et l'amertume, nous dit la Bible, a des racines qui, tôt ou tard, ressortiront si elles ne sont pas coupées, éradiquées. Que faire alors quand on est coincé dans et prisonnier de ces pensées, de ces situations? On peut s'isoler, on peut se révolter, on peut accuser Dieu, accuser nos parents, accuser l'Église, accuser la terre entière. Mais ça ne fera que rajouter des barreaux et épaissir les murs. si on en est là, si l'Église en est là, il y a un vrai danger. Jésus est dehors et nous appelle à sortir de ces murs, à nous lever de ces murs étouffants et destructeurs. Et on peut en sortir par la communication, en rouvrant nos bouches, nos oreilles, nos cœurs. On peut en sortir par la confession de nos péchés, par la confession de ce qu'on a caché à l'intérieur de nous. On en sort par le pardon aussi, offert et demandé. Et je sais que c'est dans cet état d'esprit que vous êtes, et je bénis Dieu pour cela. Lui seul peut nous libérer, que ce soit individuellement ou collectivement. Mais il faut se lever. Il faut obéir par la foi, par la prière, comme ces héros d'Hébreux 11, où nous est dit qu'ils, par la foi, ils vainquirent des royaumes, ils exercèrent la justice, ils obtinrent des promesses, ils fermèrent la gueule des lions et ils espéraient contre toute espérance. C'est Jésus, ton bien-aimé, il est derrière tes murs de souffrance, de doute, de colère peut-être. Et il t'appelle, il nous appelle à faire cette expérience que David a fait dans le psaume 30, quand il dit « Tu as délié mon sac, tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne sois pas muet. » Vous aurez remarqué que le bien-aimé, dans ses arguments pour faire sortir sa bien-aimée de ses murs, ne fait pas la liste de ses griefs, de ce qu'il peut lui reprocher, mais l'invite à sortir pour regarder le printemps, pour lui dire « mais l'hiver est fini, tu ne le vois même pas dans tes murs que l'hiver est fini, que le printemps est là ». Jésus nous dit « Viens, mon ami, ma belle, suis-moi. J'ai cloué tes péchés qui m'ont fait si mal sur une croix. Je t'ai fait grâce, alors toi, fais de même. » Oublie l'hiver, laisse ce qui est sale et laid. Regarde mon œuvre plus que la tienne. Au lieu de te cacher dans cette image des lieux escarpés, où on se croit très spirituel, sors de ces lieux escarpés où tu te crois toujours peut-être la victime. Regarde les vignes en fleurs, la promesse de ces beaux fruits à venir que sont les enfants, les jeunes de cette église. Lève-toi, viens avec moi vers ce monde, vers ces voisins qui ont soif de l'Évangile. Viens avec moi pour leur annoncer la bonne nouvelle. Chante et ris au lieu de te lamenter, de faire la tête. Tu as tant de raisons de me louer et de te réjouir. Je suis là, tout près, et tu ne me vois même plus, tu ne m'entends même plus. Et pour finir, nous dit le texte, permets-moi de te mettre en garde, mon ami, ma bien-aimée, contre les petits renards. Le renard, c'est un animal qu'on n'aime pas trop, parce qu'il est rusé, il est féroce, il est fuyant. Mais le bébé renard, il est tout doux, tout mignon. On aime le prendre dans ses bras. Enfin, moi, je n'ai jamais fait, parce qu'il faut l'attraper déjà. Mais un petit animal, on a envie de le... Voilà, c'est tout mignon. Mais un jour, il va grandir sans que s'en aperçoive. Et il va mordre, et il va détruire. Je voudrais imager cette image du petit renard par un texte que j'ai trouvé dans mes lectures, une image qui m'a parlé. C'est l'histoire d'un arbre dans le Colorado qu'on trouve probablement parmi les plus grands arbres de la planète. Quelques-uns gisent renversés et l'un d'eux qui avait été magnifique a été particulièrement étudié. Les spécialistes estiment qu'il était déjà grand au temps où Christophe Colomb découvrit l'Amérique. On a pu vérifier qu'il avait été plus de 14 fois frappé par la foudre. Il avait subi à travers les siècles les assauts d'une multitude d'orages. Il avait toujours résisté victorieusement aux vents violents de cette région. Comment donc et par qui avait-il été finalement renversé? Tout simplement par des insectes, de minuscules coléoptères qui, année après année, avaient rongé ses racines et la base de son tronc. Et un jour, le géant s'était abattu, vaincu par de petits ennemis presque invisibles. N'arrive-t-il pas que des chrétiens s'effondrent tout d'un coup, moralement et spirituellement? Les causes réelles de leur chute n'ont pas été de grandes épreuves ou des difficultés extraordinaires, mais l'action lente et répétée de petites choses en apparence insignifiantes. Une recherche de popularité, un mauvais caractère, des médisances, des rancunes, un refus de pardon, des entorses à la vérité, à l'honnêteté, de la négligence dans la lecture de la Bible et dans la prière. La vie chrétienne est faite de détails dans lesquels nous sommes appelés à être fidèles au Seigneur. La fin de ce chapitre m'a souvent interpellé aussi. On dirait qu'entre le verset 10, dans la beauté du printemps qui est revenu, dans la présence du bien-aimé qui bondit sur les montagnes, qui vient à la porte de sa bien-aimée, et le verset 17, où l'hiver est déjà revenu, une année s'est écoulée, et le bien-aimé est reparti, mais seul. Et c'est trop tard. On entend alors ce cri douloureux qui sort du cœur de la bien-aimée comme un écho sans réponse. Elle s'écrie « Reviens, reviens mon bien-aimé !» Et maintenant, ce n'est plus un mur seulement qui la sépare de son bien-aimé, mais on lit à la fin du texte, ce sont des montagnes qui la séparent de son bien-aimé maintenant. Une année vient de se terminer, une nouvelle année commence. Où en sommes-nous? Où en est l'Église? Laisserons-nous l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de l'Église, continuer à détruire, à décourager peut-être des frères, à décourager des sœurs, à décourager des serviteurs de Dieu? Laisserons-nous des jeunes, des familles, se décourager, quitter l'Église peut-être? Laisserons-nous des personnes qui sont à la porte du salut, qui sont presque chrétiens, les laisserons-nous mourir de faim parce qu'on ne leur a pas apporté l'Évangile? Mon bien-aimé me parle, te parle et nous dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens, suis-moi, mets-toi en mouvement. » Puissions-nous tous nous lever, sortir de nos murs, démolir peut-être humblement ce qu'on a construit autour d'autres personnes. Levons-nous pour l'aimer, notre bien-aimé, pour chanter, sans oublier de tordre le cou à ces petits renards bien cachés. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Avec lui, rien n'est impossible. N'oublions jamais que sa bannière sur nous, c'est l'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Il est le Dieu de l'espérance. Puisse-t-il tous nous libérer de nos fardeaux et nous donner ce désir de nous lever, d'aller à sa rencontre, de le suivre. Il veut nous bénir, il veut vous bénir. Merci pour votre écoute.